seul imam. On n'a pas deux imams. On peut avoir 100 prophètes, mais on ne peut pas avoir 100 imams. Ça veut dire qu'à l'époque d'Ibrahim, il y avait Ibrahim, quand il est devenu imam, c'était lui le imam, et pas quelqu'un d'autre. Mais on peut avoir plusieurs prophètes en même période, comme Ibrahim et Lout, alayhi salam, et des autres prophètes qui vivaient dans la même époque. N'est-ce pas? Vous connaissez ces histoires. Ibrahim et son cousin Lout. Et aussi des autres prophètes comme Yahya, Zakaria, Isa, alayhi salam. Tous ces prophètes étaient dans la même période. Ils étaient des prophètes. Vous voyez, ça veut dire que les prophètes, alayhi salatu wassalam, ici, ils sont des fois que des prophètes, mais ils ne sont pas les imams. Parce que les imams, on a dit, il y a des rôles importants de l'imam. Il est guide, il est le gouverneur. Il est le centre et il est aussi le lien, l'intermédiaire et le lien entre la terre et le ciel et la divinité. Et c'est qui? C'est une seule personne. On l'appelle aussi Hujja. Il y a une autre, comment dire, il y a un autre nom pour l'imam, on dit Hujja aussi.
Donc est-ce que pour vous, Cheikh, c'est une erreur de faire un lien entre, par exemple, des personnes qui sont originaires en ce moment même, cette époque-là, et qu'on les appelle imams, des imams? C'est pas le même terme que l'imama dont on parle.
Non, imam, quand on parle de l'imam ici, on n'est pas en train de parler de l'imam, on a parlé de ça, mais vous n'étiez pas présente. Quand on a défini le mot de l'imam, c'est pas imam qui va dire celui qui guide la prière, par exemple, voilà, qui est devant les gens, qui guide la prière. Non, ici, on parle de l'imam qui est le successeur et la continuation de la prophétie. S'il n'est pas prophète de quelqu'un qui est la continuation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ou bien s'il est prophète, il a, comme on a dit, le rôle de l'intermédiaire entre la terre et les cieux. Et ça veut dire et la divinité. Et celui qui est le guide, le grand guide, on peut dire. Celui qui est le centre. Celui qui est le responsable de tout ce qui se... Il est vraiment la personne qui représente Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. C'est ça le vrai rôle de l'imam, alayhi salam. Que ce soit un imam prophète ou un imam non prophète. Ici, par exemple, l'imam Ali, l'imam al-Hassan, l'imam al-Hussein. Et aussi, il y a certains imams avant le prophète qui n'étaient pas prophètes aussi. Avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'étaient pas prophètes. Entre Isa alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des imams. Parce qu'il y avait plusieurs siècles. Et dans cette période, sûrement, il y a des imams. On a dit, chaque époque, il faut avoir un imam. Que ce soit avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou après. C'est pour ça qu'on a besoin, pareil, on a des prophètes aussi avant l'islam. Ça veut dire avant le prophète Mohammed. Ça veut dire on peut dire avant et après. Il y a des imams avant et après. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin du monde. Il faut avoir toujours des imams. Parce qu'on a dit... On a un hadith très connu. Celui qui meurt sans connaître l'imam de son époque, de son temps, il meurt ignorant, mécréant, que ce soit avant ou après. Chaque époque, on doit connaître notre imam. Même Imam Sadr, alayhi salatu wassalam, il dit, par rapport à qui? Par rapport à... Luqman al-Hakim. Il dit pourquoi on a appelé Luqman Hakim. La première sagesse de Luqman de connaître son imam. Il a dit parce que Luqman il a connu l'imam de son temps. Luqman que ce soit un prophète ou parce qu'il y a certains qui disent Luqman était un prophète, certains d'autres ils disent non. Et il y a des citations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent que Luqman n'était pas un prophète, mais il était un sage, un pieux, un wali. Mais il n'était pas un prophète. Mais pourquoi on l'a appelé Hakim, l'imam Sadr, alayhi salam? Il dit parce qu'il a connu l'imam de son époque. Vous voyez l'importance de connaître l'imam de son temps. Et c'est pour ça que chaque époque, depuis Adam jusqu'à la fin du monde, il y a des imams. Mais certains, des fois, les imams sont la même personne que le prophète. Des fois, non, ils sont les imams sans être prophètes. Et des fois, ils sont des prophètes sans être des imams. C'est-à-dire à l'époque de Moussa, alayhi salam, ou à l'époque d'Ibrahim, alayhi salam, quand il était l'imam, lui, les autres n'étaient pas les imams. Il y avait des prophètes autres que lui, mais ils n'étaient pas des imams.
L'imamat, il y en a qui disent que ça s'arrête à 12 imams, d'autres 7, d'autres 5, en fait, par rapport aux imams qui ont précédé après le...
Après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a 12 imams. 12 imams, le dernier, c'est l'imam al-Mahdi, ajalallah ta'ala, farajahu al-sharif. Et Allah va prolonger sa vie jusqu'à ce que le sa'a, l'heure de sa réapparition, arrive, inshallah ta'ala. Ici, on voit que, quand on a vu que la question de l'imamah, c'est la question très liée à la prophétie. Et quand on va, si on va commencer à réfléchir comment prouver qu'on a besoin d'un prophète, les mêmes arguments seront utiles et vont nous aider. Ils vont nous aider pour aussi prouver la question de l'imam. C'est les mêmes, parce que c'est le même rôle. Il n'y a aucune différence entre le rôle de l'imam et le rôle du prophète, sauf, on a dit, un seul rôle qui est le messager et celui qui transmet le message. Je pense que, Inch'Allah, c'est clair jusque-là, n'est-ce pas? Inch'Allah. Mais pour donner l'exemple, pour réfléchir et prendre un peu l'exemple de ce que j'ai dit comme Hayy ibn Yaqdan, mais avec des petites modifications. La personne, en imaginant une personne dans une île, qui n'a pas vu ni de livres, ni de prophètes, ni de professeurs, ni rien. On dit normalement que cette personne, dans son cœur, il a le fitra. On l'appelle fitra. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha. C'est la nature première. Il y a des questions, on dit inné, n'est-ce pas? Vous connaissez ça. Et ce fitra, cette nature que Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué, a donné dans le Coran. Allah, il a parlé de cette nature première dans le Coran. Cette fitra, on voit dans le hadith de Ahl al-Bayt alayhi salam, on insiste sur l'importance de ce fitra. Et l'imam Ali alayhi salam, il dit, le rôle des prophètes, c'est de sortir cette fitra, de montrer cette fitra, de, si la samahallah, cette nature était abîmée à cause de l'environnement, le prophète vient pour laver et pour purifier la personne, pour rappeler la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala et de cette nature, n'est-ce pas? C'est pour ça que même si une personne reste dans une île, il peut seul savoir que j'ai besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut sentir à son intérieur, dans sa nature première, il peut sentir la présence et l'existence, on peut dire, d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Exactement. Et la présence, l'existence d'Allah, déjà c'est dans le cœur de cette personne, dans cette île. Il y a une autre chose aussi. Après, il va commencer à penser, Allah, comment il est? Il va commencer à connaître aussi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Selon ce qu'il trouve dans son intérieur, ou ce qu'il trouve dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'extérieur. C'est pour ça que le Coran dit « Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim ». On va leur montrer nos signes dans les horizons et dans leur intérieur. « Wa fi anfusihim ». C'est-à-dire qu'il peut commencer à réfléchir. Il peut commencer à savoir et à connaître, on peut dire, Allah subhanahu wa ta'ala avec la raison. Et c'est ça l'aql, le rôle de l'aql. L'aql, la raison qui va aider cette nature première. Mais après, il va dire que, ok, maintenant, pour être proche d'Allah, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me rapprocher d'Allah? Comment arriver à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est des questions. C'est-à-dire, quand il a découvert l'existence de Dieu, l'existence d'une puissance énorme, l'existence d'une puissance absolue, de quelqu'un qui est la base ou la source de la création, comment il va se rapprocher de Dieu? Il va commencer à réfléchir à ça.
C'est inné.
C'est inné. Il va commencer à... Mais après, il va dire, mais la meilleure méthode pour se rapprocher, c'est quoi?
Communiquer avec lui.
Communiquer avec lui, exactement. Ça commence l'adoration. Mais comment adorer avec une méthode, c'est-à-dire la meilleure méthode? Il va commencer à dire que comment je dois communiquer avec lui? Comment je dois savoir qu'est-ce que je dois faire? Ou bien il va arriver, certains, ils arrivent à un point que pour eux-mêmes, il y a des inspirations. Ça veut dire qu'ils sont inspirés. Dieu va leur dire quelque chose parce qu'ils sont très pieux. Ils ont vraiment purifié leurs âmes. Ils ont vraiment travaillé sur leurs intérieurs et sur leur esprit. Vous voyez, ou on peut dire leurs âmes. Mais après, ils vont dire que mais on a besoin vraiment de communiquer plus, de savoir comment je dois prier, comment je dois adorer, comment je... C'est quoi Dieu, qu'est-ce qu'il demande de moi? Les commandements de Dieu, ce sont quoi? C'est ici qu'on va dire qu'on a besoin. Déjà, on était dans l'unicité. Maintenant, on vient sur la question de la prophétie. Il va dire, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'amener des commandements, qu'il va me porter et me transmettre des commandements de Dieu.
Chacun est dévoyé.
Ça, c'est, il va voir que le prophète, ça veut dire, j'ai besoin, enfin, il va dire, j'ai besoin d'un prophète. Celui qui va transmettre les messages de Dieu, qu'il va transmettre les commandements de Dieu. C'est là qu'il va savoir que j'ai besoin de prophète. Mais après, il va dire aussi le prophète, si le prophète arrive, on est toujours dans l'imagination, si le prophète arrive pour dire que toutes ces questions, ce sont des questions logiques et des questions liées à l'intérieur, liées à la nature première de l'être humain, il va dire que c'est vrai, maintenant j'ai le prophète qui m'a porté le livre. Il m'a porté les commandements de Dieu pour être plus proche de Dieu. Mais j'ai besoin aussi de qui?
Qui va m'expliquer?
Qui va m'expliquer? Ahsan ton, mashallah. Qui va m'expliquer ça? Qui va m'enseigner? Qui est le professeur? Est-ce qu'on a trouvé une école sans professeur? Même s'il y a des livres. Mais il faut toujours de professeurs. Il va envoyer les professeurs. Et les prophètes, au début, ils avaient le rôle des professeurs et... des prophètes, des transmetteurs, vous voyez, et des transmetteurs et des professeurs. Mais après, quand il n'y a pas de transmetteur, quand ce n'est pas le prophète, c'est-à-dire après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on n'a plus besoin des prophètes, des professeurs et des enseignants? Est-ce que l'école c'est fini, il n'y a plus de ça?
On a besoin
des imams, c'est ça. Le rôle de l'imam ici, c'est-à-dire le rôle d'enseignement et de guide, ça reste toujours valide. On a toujours besoin d'imam qui va nous enseigner et nous aider. Bien sûr, il y a des questions qui vont se poser. Peut-être après, on dit à cette époque, dans l'imam, le Mahdi, alayhi salatu wassalam, ajallah ta'ala farajou al-sharif, il n'est pas parmi nous. Ça, on a des réponses, inshallah, pour la prochaine fois. On va répondre à ça, inshallah.
J'ai une question. Est-ce que les imams, ils sont en égalité avec les prophètes? Ils sont supérieurs, inférieurs?
Ça dépend. On a des prophètes. Ça veut dire, la question de l'imam et la question de prophétie, on a dit, il y a des imams qui sont et prophètes et imams. Comme Ibrahim, alayhi salam. Comme les enfants d'Ibrahim. Comme Ishaq, Yaqub, par exemple. Est-ce que Yaqub, qui était l'imam, Yaqub, par exemple, qui était l'imam de son époque. Parce qu'avant, c'était Ismaïl pour une période. Après le départ d'Ismaïl, c'était Yaqub, par exemple. Après, on a dit, c'était Ishaq, excusez-moi. Après, c'est Yaqub. Yaqub, par exemple, si, y a une question que je devais dire aussi, on ne connaît pas tous les imams de toutes les époques. Ça veut dire ça, on n'a pas une connaissance exacte. Il y a certains qui disent, qui demandent, qui est l'imam avant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, on va dire que c'est... Non, juste avant. Avant la naissance de l'imam, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, juste avant la naissance du prophète, c'était qui?
On ne peut pas savoir, il y a eu 1400 ou plus même.
Non, non. Ça, il y a certains qui disent que c'est possible qui était cette personne, Abdul Muttalib. Le grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui était l'imam de son époque. Parce qu'il faut, on a dit, toujours un lien entre la terre et le ciel. L'imam qui est l'intermédiaire. Et ici aussi, il est le guide. Les gens se réfèrent vers lui. Et Abdul Muttalib, les gens se référaient vers lui. Quand il y avait l'histoire d'Abraha, vous connaissez l'histoire d'Abraha, quand il voulait détruire la Kaaba avec ses éléphants. Vous connaissez cette histoire. Et il est venu, Ibrahim, il est venu, Abraha, vers la Mecque. Il a parlé avec qui? Il a parlé avec Abdul Muttalib. Mais il a vu que Abdul Muttalib était très très calme, apaisé. Pourquoi? Parce que peut-être c'était lui l'imam. Parce que quand il a demandé, tu n'es pas inquiet, il a dit, je suis le maître des chameaux. Walil Ka'bati Rabbun Yahmiha. Et pour la Kaaba, il y a un seigneur qui va la protéger. Ça veut dire, et lui, il a des connaissances. C'est-à-dire, et lui, il est connecté, comme on dit aujourd'hui. Il a une connexion. Il a une relation avec la divinité. Pour savoir que, pour être apaisé et pour être sûr que la Kaaba sera protégée. Peut-être, je dis, on n'est pas sûr que c'était lui, mais avec les signes et avec les éléments qu'on a dans la main, on voit que peut-être c'était lui l'imam. Parce qu'il faut toujours des imams, dans chaque époque, comme on a dit.
C'est pour ça que vous avez dit, il y a un hadith qui dit que si on n'a pas d'imam, c'est comme si on mourait dans la mécréance.
Dans la mécréance, exactement. Il faut connaître toujours l'imam de son époque. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad.